14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
Je m'accroche à toute hypothèse et toute possibilité pour retrouver Carole. Et s'ils peuvent m'entendre, tout ce que j'aimerais, c'est qu'elle puisse me faire signe, ou aux parents de Carole, peu importe, mais qu'elle fasse signe si elle peut. Essayer de retrouver Carole, de savoir ce qui s'est passé, où elle est, c'est tout. Je veux dire, c'est mon seul problème.
Bonjour, n'est pas Alfred Hitchcock qui veut, même si dans cette histoire, l'un de ses admirateurs, Roland Mogg, a réussi à faire planer le mensonge pendant 4 ans. 4 ans de diversion, de déclarations confuses, de dénégations répétées destinées à occulter un crime tout aussi unique qu'épouvantable. Le meurtre de sa compagne qui était sur le point d'accoucher. Pour échapper à la justice, ce projectionniste de cinéma avait ainsi imaginé un scénario machiavélique au terme duquel personne ne pourrait retrouver Carole. Même si, comble de l'horreur, tout le monde, sans le savoir, continuerait, eh oui, de la côtoyer. Aujourd'hui encore, malgré une longue enquête, des interrogatoires et de macabres découvertes, l'affaire Roland Mogg conserve une grande partie de ses secrets. L'homme cultivait depuis toujours le mystère au point que personne ne connaissait son vrai visage. Pourquoi autant de mensonges? Question que nous allons poser aujourd'hui à nos invités.
14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL.
Aujourd'hui, dans l'heure du crime, l'affaire Roland Mogg, le nom de ce projectionniste anonyme d'un cinéma de Strasbourg, apparaît au printemps 1995. Un homme affolé et perdu, sa compagne enceinte de 9 mois, a disparu. Dans la soirée de ce mercredi 17 mai 1995, Roland Mogg est à son poste, installé dans la cabine de projection du cinéma Le Star, une salle au cœur de Strasbourg, pas très loin de la place Kléber. Mogg, 27 ans, est un des piliers du cinéma, un excellent technicien à qui on doit une grande partie des nouvelles installations. Il est ici chez lui. À 21h30, en pleine séance, le téléphone sonne à la caisse du Star, un appel pour lui. Mogg se saisit du combiné, il discute avec une femme qu'il appelle Carole. C'est Carole Prin, sa compagne. Celle-ci le prévient qu'elle est sur le point d'accoucher. Elle est enceinte de 9 mois et doit se rendre à la clinique Sainte-Anne. Un quart d'heure à peine en voiture depuis leur domicile au numéro 9 de la rue des Serruriers. Roland lui répond qu'il l'a rejoint. Il paraît soudain déboussolé. Il se fait remplacer par un collègue projectionniste et file à l'appartement. Il prend le sac de Carole qu'elle n'a pas emporté et conduit les deux chiens de celle-ci, deux bobtail, chez une de leurs amies qui habite à la campagne, à Blachheim, à 20 km de Strasbourg. Chez elle, le projectionniste téléphone à la clinique et soudain son visage blêmit. À la réception, on lui répond qu'aucune patiente n'a été admise sous le nom de Carole Prin. Carole n'est pas là. Roland Mogg file immédiatement à la clinique Sainte-Anne. Il est alors près de minuit. Le gardien voit débouler un homme à bout de souffle. Le nom de Carole Prin ne figure pas sur le registre des admissions. Dans les heures qui suivent, Roland Mogg se démène pour retrouver Carole. Il sillonne les rues de Strasbourg, téléphone au SAMU, appelle les hôpitaux, puis prévient la police. Il vient de trouver la voiture de sa compagne, une vieille Citroën Visa blanche, garée dans une rue adjacente à leur domicile. Le véhicule que Carole aurait dû emprunter. Une équipe de policiers arrive sur place, constate que la voiture n'a pas bougé, le moteur est froid. Ils accompagnent Mogg dans l'appartement, une petite chambre avec un berceau est préparé pour la naissance du bébé, un petit garçon. Aucun désordre. Le carnet de maternité est là. Il manque le sac à main de Carole et son trousseau de clés. Les policiers penchent pour un mouvement d'humeur de la compagne, mais dans ce cas-là, pourquoi aurait-elle téléphoné pour dire qu'elle partait tout de suite à la clinique? Les policiers et gendarmes multiplient alors les vérifications à Strasbourg et aux alentours. On pense à un accident, la rivière, l'île est sondée. Les cliniques et hôpitaux de toute la France et même de l'Allemagne limitrophe sont interrogés sur Carole Prin, qui a peut-être décidé d'accoucher sous X. 5 jours après le signalement de la disparition, une information judiciaire est ouverte pour enlèvement, un appel à témoins lancé. Les enquêteurs savent que Carole Prin, en congé maternité, a été aperçue au cinéma Le Star, où elle est caissière, le 16 mai vers 14h, veille de sa disparition. Elle avait ce jour-là des contractions et avait appelé son gynécologue. Les contractions se sont arrêtées. Roland a retrouvé Carole le soir même dans l'appartement, le lendemain 17 mai. Elle a passé, selon lui, la journée à se reposer. Vers 17h, il a sorti les deux chiens et les a promenés en voiture. Il a quitté Carole en début de soirée, à 19h, pour se rendre au cinéma. Il n'a pas eu de ses nouvelles jusqu'à ce qu'elle lui téléphone à 21h30 pour le prévenir qu'elle était sur le point d'accoucher et filer à la clinique en voiture. Une certitude, Carole Prin n'avait aucune envie de disparaître ou de mettre en danger la vie de son bébé. À 37 ans, elle attendait cet enfant comme le Messie. Elle avait suivi pour cela un traitement pour favoriser la fertilité. Elle rêvait, avec Roland, d'accomplir le plus grand de ses rêves, fonder enfin une famille. Roland Mogue, dernière personne à avoir vu Carole Prin vivante, retient évidemment l'attention de la police, d'autant plus que la vie ou les vies du projectionniste sont bien plus compliquées qu'il n'y paraît. Les semaines passent et la juge de Strasbourg, Sophie Thomann, ne dispose d'aucune piste solide pour expliquer la disparition de Carole Prin, une femme qui se faisait une joie d'accoucher très prochainement. Tous les regards se portent sur le compagnon, Roland Mogue. Son profil est pour le moins secret et déroutant. Les policiers vont découvrir que quelques années auparavant, le projectionniste a vécu un temps avec Daniel, avec qui il a eu deux filles qu'il n'a reconnues que très tardivement. Il a quitté Daniel toutes ces années. Il a caché l'existence de ses deux enfants, qui ont alors 9 et 5 ans, à ses amis et même, plus surprenant, à ses propres parents. Ils tomberont des nues en apprenant qu'ils sont grands-parents. En 1994, il a rencontré Carole tout en continuant d'avoir une liaison avec Catherine, une autre employée du cinéma. À ses amis, il n'a jamais dit qu'il l'avait emménagé avec Carole Prin et était le père de l'enfant qu'elle portait. Les policiers s'étonnent de ce double jeu. Ils sont encore surpris que, depuis la disparition, Mogue ne les appelle jamais pour avoir des nouvelles. Trop de doutes. Roland Mogue est placé en garde à vue, mais le projectionniste reste inflexible. Il répond sur un ton monocorde, comme s'il était absent. Il est réentendu 6 mois après, mais à nouveau, il ne lâche rien. Il reste un simple témoin, même si les enquêteurs voient en lui le suspect numéro 1. Juin 97, 2 ans après la disparition de Carole Prin, la juge décide de lancer une vaste perquisition derrière les murs du cinéma Star. L'enquête a changé de main. La brigade des mœurs de la Sûreté urbaine de Strasbourg a transmis le dossier à la section de recherche de la gendarmerie. Les recherches se doivent d'être exhaustive. 2 jours de fouilles sont prévus dans les moindres recoins d'un bâtiment qui compte de nombreuses coursives et des caves. Les sous-sols sont explorés de fond en comble, certaines cloisons sondées, toutes les armoires ouvertes, des meubles démontés. Les entrailles du cinéma ne livrent pourtant aucun indice, à l'exception d'une troublante découverte, des impacts de balles de gros calibre, probablement ceux d'un revolver 357 Magnum. Aucune munition n'est retrouvée. Roland Mogue admet qu'il détient certaines armes anciennes et qu'il pratique le tir sportif dans un club, mais il dément avoir utilisé une arme dans les sous-sols du Star. Il ne possède d'ailleurs pas de 357 Magnum. Même si les enquêteurs font face à une affaire sans cadavre, sans aveu et sans témoignage, ils ne cessent de tourner autour de Roland Mogue. Ils n'ont aucune preuve contre lui. Ils disposent seulement d'un faisceau d'éléments toujours plus troublants les uns que les autres. Les témoignages du projectionniste seraient contradictoires. Les gendarmes, tout comme la famille de Carole Prin, soupçonnent le projectionniste. Tous ont été surpris par son intervention dans l'émission Perdue de vue sur TF1. Lors de son interview, Mogue n'a montré aucune émotion palpable. Il est apparu presque ailleurs et a même parlé de Carole à l'imparfait du subjonctif en déclarant « Carole était quelqu'un qui comptait pour moi ». Les enquêteurs s'étonnent encore que Roland Mogue n'ait jamais déposé plainte. Décembre 98, il est de nouveau placé en garde à vue. Aucun changement d'attitude, il apparaît froid, lointain, sûr de lui, pas d'aveu. Mais cette fois, il ne sort pas libre de la gendarmerie. La juge abat son va-tout. Roland Mogue est mis en examen pour homicide. Il est écroué. Roland Mogue est écroué, il ne bronche pas. Beaucoup de ses amis ne croient pas en sa culpabilité. Lui-même est persuadé qu'il sera bientôt libéré, faute d'éléments probants. Une macabre découverte va pourtant tout changer. Ce 24 mars 1999, Daniel Moog, que tout le monde surnomme Danny, frère jumeau de Roland Moog, se présente dans le cabinet d'instruction de la juge Thoman. Le frère inséparable a hésité avant de venir pour ce qui apparaît comme le plus douloureux témoignage de sa vie. 4 jours auparavant, avec un de ses amis, André Lambert, un ancien gendarme, il est venu débarrasser un box qu'on avait prêté à Roland. Celui-ci est écroué. Il dit alors à son frère et à son ami de se débarrasser de ses affaires, cartons, vieux jouets, vieux livres, direction la déchetterie. Avant de tout jeter, les deux hommes ont été intrigués par une malle fermée par un cadenas. André Lambert l'a finalement forcé. À l'intérieur, il est tombé sur une couverture et des sacs poubelles qui, une fois déchirés, ont livré une odeur pestilentielle. Des ossements et des restes humains sont apparus. Les experts sont formels. Il s'agit bien des restes du corps de Carole Prin et de son bébé sur le point de naître. À l'arrière du crâne de la jeune femme, une brèche osseuse est observée par les légistes. C'est une blessure par arme à feu, un gros calibre. Roland Moog est désormais au pied du mur. Face à la juge, il avance tout d'abord la thèse de l'accident. Le 16 mai 1995, Carole est venue le voir pour mesurer une armoire dans la cave du cinéma sur l'un des montants. Moog avait oublié un revolver avec lequel il tirait parfois dans ce sous-sol. Le coup serait parti accidentellement. Il dit avoir paniqué et avoir repris son travail. Dans la nuit, il est revenu à nettoyer la scène du drame. Il a déshabillé Carole, a fabriqué un sarcophage hermétique et l'a caché dans un trou creusé il y a des années dans un mur. Il dit avoir jeté l'arme dans le petit lac de Plopsheim. Le plan d'eau est sondé, en vain. Les avocats de Moog finissent par remettre le revolver à la juge. Celle-ci ne croit pas du tout à la thèse de l'accident. 19 septembre 2000, le projectionniste donne ainsi une autre version. Il admet s'être disputé au cinéma avec Carole. Elle voulait le quitter pour élever seul son enfant. Il l'a tué. Il a caché le corps qui est resté 2 ans dans la cave du cinéma, tout près des spectateurs de la salle numéro 1. Carole n'avait pas appelé Roland à 21h30 le 17 mai. Elle était déjà morte. Moog avait simplement programmé un appel automatique de l'horloge parlante. Il avait fait semblant de converser avec sa compagne. Alors que les films se poursuivaient et que le cinéma continuait à tourner, Roland Moog est démasqué. Reste à savoir si son crime était prémédité ou s'il l'a fait feu sur un coup de colère. Son procès devant une cour d'assises permettra peut-être de le dire. Le 27 novembre 2001, Roland Moog, flottant dans un costume sombre trop grand pour lui, le teint blafard et le visage émacié, entre dans la salle d'assises du Bas-Rhin à Strasbourg. Il raconte comment il a tué Carole Prin. « Je ne me souviens que d'un bruit immense, Carole qui tombe sans rien, pas un cri, rien, rien. Elle voulait me quitter, j'ai vu Carole partir, se diriger vers la sortie. J'ai pas voulu qu'elle parte, j'ai encore dit « Carole !» Il n'y a pas eu de réponse, j'ai pris l'arme, j'ai levé le bras. Et j'ai tiré. Les aveux sont là, mais il reste des questions sur le lieu du crime notamment. Une petite pomme de pin a été retrouvée dans une couverture ayant servi à emballer le corps, laissant croire que Carole aurait pu être abattue ailleurs qu'au cinéma. Hypothèse ouvrant la porte à un scénario différent du simple coup de colère, mais à un plan prémédité, un assassinat, un crime plus durement puni par les juges. Moog reste pourtant sur ses déclarations. Les psychiatres décrivent l'accusé comme un homme de type antisocial, inaffectif, narcissique, qui n'éprouverait pas de grande culpabilité. Le docteur Henri Brunner estime que Roland Moog tient à distance tout ce qui est affectif. Les accusations fusent. Seul Danny Moog, le frère jumeau toujours déchiré après avoir dénoncé Roland, dit de celui-ci « Roland n'est pas un monstre, c'est quelqu'un qui est gentil et qui était en souffrance ». L'avocat général Pascal Schultz réclame une peine de 30 ans à l'encontre du projectionniste. « Vous êtes le producteur, le metteur en scène et l'acteur d'un meurtre exceptionnel car vous n'avez laissé aucune chance à la victime. Une orchestration parfaite qui ne peut être que le fruit d'une même réflexion. L'affaire Roland Moog, le meurtre était presque parfait, mais Roland Moog va finalement être condamné à 25 ans de prison, assorti d'une peine de sûreté de 15 ans. Il ne va dès lors plus jamais faire parler de lui. Le 7 décembre 2001, après 9 jours de procès, les aveux réitérés de Roland Mogue et le passage de 70 témoins, les parents de Carole Prince, sa sœur et ses proches ont quitté la salle de la cour d'assises sur un point d'interrogation. Selon la famille, Roland Mogue n'aura jamais cessé de jouer la comédie. Tout d'abord au cours de l'enquête, puis ensuite à l'occasion de son procès. Des proches qui n'ont jamais cru à la version d'un meurtre dans le sous-sol du cinéma, où seulement d'infimes traces de sang ont été découvertes. L'une des avocates de la famille, maître Jocelyne Klopfenstein, ne croit ni au crime passionnel ni à un homicide causé par la colère. « C'est sur le chemin de la clinique que Carole a été tuée », dit-elle. Selon l'avocate, Roland Mogue avait prémédité son geste et s'était muni à l'avance du revolver destiné à tuer la malheureuse. Lors des débats, Roland Mogue dira n'avoir jamais voulu que ce jour-là arrive. Il avait ajouté « Je n'ai pas le souvenir d'avoir voulu faire du mal à quiconque, bien que Carole ait payé de sa vie sa volonté de le quitter ». Roland Mogue a depuis toutes ces années purgé sa peine et il a retrouvé la liberté.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.